Bonjour mes chers auditeurs, vous ne serez pas trop étonnés si je vous parle aujourd'hui du 11 septembre. Mais pas suivant les canons de la presse officielle, c'est pourquoi j'ai intitulé cette causerie « Le 11 septembre ou le méga mensonge ». Lorsque je parle de méga mensonge pour le 11 septembre, je ne veux pas dire du tout que les attentats n'ont pas existé. Ils ont existé, je les ai vus moi-même à la télévision. Ce que je veux dire, c'est qu'en imputer la responsabilité à Ben Laden et à Al-Qaïda relève de la fumisterie absolue. 42 secondes après l'explosion de la tour numéro 2, Ben Laden était désigné à la télévision en direct comme le coupable. Le lendemain, notre belle presse en faisait autant en attendant que le président Bush officialise lui-même ce bobard le 16 septembre. Le même jour, le vice-président américain Dick Cheney déclarait avec aplomb à la chaîne NBC qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que Ben Laden et son organisation ont joué un rôle important dans les attentats. Or, au même moment, l'envoyé des talibans au Pakistan disait que Ben Laden était dépourvu de moyens de communication, y compris le téléphone et Internet, et qu'ainsi, il lui aurait été impossible d'avoir coordonné les attentats. Cette affirmation, qu'on pourrait croire tendancieuse, fut confirmée par un interview de Robert Fisk au journal Le Monde, interview paru le 19 septembre 2001. Robert Fisk était un journaliste anglais de renommée internationale qui avait rencontré Ben Laden à plusieurs reprises. Il raconte que lors de sa dernière rencontre avec celui-ci, qui vivait sous une tente, Ben Laden s'était emparé des journaux en arabe qui étaient dans son sac et s'était précipité dans un coin de sa tente pour les lire pendant 20 minutes. Il ne savait même pas que le ministre des Affaires étrangères iranien venait de faire une visite officielle à Riyad. Il n'écoute donc pas la radio, me suis-je demandé. Est-ce bien là le parrain du terrorisme international? Excellente question, dont la réponse est évidente. D'ailleurs, Robert Fisk termine son entretien par cette réflexion qui en dit long. Je me suis demandé, en regardant les images de New York la semaine dernière, si Ben Laden n'était pas aussi étonné que moi de les voir. À supposer qu'il ait la télévision. Ce qui, effectivement, ne semblait pas être le cas. Mais alors, dans ces conditions, comment imaginer qu'un tel individu, totalement coupé du monde, ait pu organiser un attentat aussi sophistiqué? C'est là où vit le nœud du problème que les responsables politiques occidentaux ont soigneusement escamoté. Ils n'ont pas voulu en particulier se poser la question basique que se pose tout policier lorsqu'il a une énigme à résoudre, à qui profite le crime. Dans un livre publié en 1997, Zbigniew Brzezinski avait écrit « Pour que les États-Unis maintiennent leur domination globale, ils devraient contrôler l'Asie centrale et ses vastes réserves de pétrole. Mais un nouveau Pearl Harbor serait nécessaire pour obtenir l'adhésion de l'opinion publique américaine à ses visées impérialistes, mais aussi guerrières. » Un peu d'histoire pourra mieux comprendre les choses. Sous l'ère Clinton, la compagnie UNOCAL, Union Oil of California, associée à des intérêts saoudiens, projeta de construire un gazoduc qui transporterait le gaz turkmène à travers l'Afghanistan, puis le Pakistan, jusqu'à l'océan Indien. Mais les seigneurs de la guerre, qui contrôlaient chacun une portion du territoire, firent du chantage. Il fallait payer une dîme, sinon le gaz ne passerait pas. Alors la compagnie, aidée de la CIA et de l'ISI, les services secrets pakistanais, décidèrent d'appuyer l'arrivée au pouvoir des talibans. Et donc ce sont les Américains qui ont installé au pouvoir les talibans. Mais à la fin de décembre 1998, après un an de coopération intense, UNOCAL et les talibans ne s'entendirent plus. Le projet fut arrêté, tandis que les Chinois développaient leur implantation dans ce pays. L'Amérique s'inquiéta. Tout redevint possible pourtant pour les Américains en 2001. Le 9 septembre, le commandant Massoud sans doute le seul chef de guerre afghan incontrôlable, c'est-à-dire inachetable, mourut assassiné. Il n'est pas difficile de deviner quels furent les commanditaires de cet assassinat. Deux jours plus tard, ce fut la divine surprise, avec les attentats du 11 septembre qui allaient permettre de clouer au pilori Ben Laden et les talibans qui avaient eu l'audace de s'opposer au transfert du gaz. L'Afghanistan possédait en outre des métaux rares. Ce pays a une position stratégique du plus haut intérêt. Il touche à la Chine, à l'Iran, aux républiques musulmanes ex-soviétiques et au Pakistan. Tout cela ne gâtait évidemment rien. Mais il y avait aussi un autre but de guerre dont on ne parle pas, dont on ne parla qu'à couvert à ce moment-là. C'était l'invasion de l'Irak. Mais l'administration américaine était divisée. Le Pentagone, avec Rumsfeld et les néo-conservateurs qui l'entourent, ou qui l'entouraient, était pour. Mais le département d'État était contre. Le président arbitra en faveur de ces derniers. Mais ce n'était que partie remise. Le 29 janvier 2002, dans son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès, George Bush désigna ce pays comme faisant partie de l'axe du mal, au même titre que la Corée du Nord et l'Iran. Selon le New York Times, un plan d'attaque était prêt dès juillet 2002. Le 12 septembre 2002, le président américain menaça d'intervenir unilatéralement si le Conseil de sécurité n'obtenait pas le désarmement de l'Irak. Ce fut le début du mensonge des armes de destruction massive. Quelques jours plus tard, on énonça la stratégie qui permettrait d'attaquer préventivement les États dits voyous, alors que les véritables voyous étaient ceux qui dirigeaient les États-Unis et Israël. Car l'État sioniste voulait contrer à tout prix le rêve des nationalistes arabes, qui est de constituer des nations fortes. Les sionistes voulaient remodeler la carte du Proche-Orient pour n'avoir en face d'eux que les petites principautés complices ou impuissantes. Hors d'Irak, avec ses communautés ennemies, les chiites majoritaires mais sans pouvoir réel, les Kurdes en perpétuelle rébellion, et les sunnites installés au poste clé du pouvoir, présentaient un cas idéal pour commencer à remodeler la carte proche-orientale dans un sens favorable à Israël. Les Américains voulaient mettre la main sur le pétrole, il y avait donc une conjonction d'intérêts qui explique bien des choses. Dans un rapport au Sénat, il est écrit que des groupes d'Israéliens, au total plus de 125 personnes, sous couvert de lutte contre la drogue, étaient au moment des attentats aux États-Unis. Les individus étaient répartis en cellules, dispersés au New Jersey, en Floride, etc. Toutes basées à proximité des islamistes. Leurs lourds moyens d'écoute, notamment des communications de mobiles, font croire aux auteurs du rapport qu'ils disposaient très certainement de détails précis de l'opération terroriste en préparation. Le principal groupe israélien jouxtait Hollywood, le centre de commande des opérations terroristes. Le matin du 11 septembre, juste après le premier impact sur les tours jumelles, plusieurs membres de la cellule israélienne du New Jersey, écoutés par le FBI, se seraient réjouis au téléphone du succès de l'opération. Il est donc clair que les responsables du 11 septembre se sont dévoilés eux-mêmes. Les pseudo-agents de la lutte contre la drogue étaient évidemment des agents du Mossad, qui renvoient mal 125 agents israéliens se consacrant uniquement à la lutte contre le cannabis. Mais tout cela n'était possible qu'avec la complicité de la CIA et de certains membres de l'FBI. Nous sommes donc loin de Ben Laden et d'Al-Qaïda, d'une certaine presse aux ordres, voudrait, à l'instigation des manipulateurs de l'opinion publique, nous faire prendre pour les auteurs du 11 septembre. Au mois prochain, mes chers auditeurs, à bientôt. Au revoir.